Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce mardi 27 février. Oui, on est ensemble durant une heure. Durant cette émission, on va revenir sur quoi ? On va revenir sur cette Ligue des Nations féminines avec notre journaliste consultant HD qu'on retrouvera d'ici peu. L'Olympique Lyonnais et cette fameuse Coupe de France, et oui, qui lui portera peut-être chance, on verra bien, avec toute l'équipe qui m'accompagne ce soir, Mbappé, le stratège peut-être aussi, hein, avec ce dîner du côté du 59 rue du Faubourg, c'est ça, on est bien ça, c'est bien ça, du côté de l'Elysée où on pourra retrouver justement le président de la République accompagné de l'émir du Qatar, Monsieur Al Thani, sans oublier aussi le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, avec le président de la Fédération Française de Football, Monsieur Diallo, et ainsi Monsieur Labrune, le président de la Ligue de Football Professionnel, entre autres. Voilà, ça sera le dîner de ce soir, mais nous on en parlera avec vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, et sans oublier, là aussi encore une fois, les résultats de la nuit sur la NBA, les parquets nord-américains, et oui, le championnat qu'est la NBA. On reviendra avec toute l'équipe de Time Sport. Le 01 53 48 3000, rien de plus simple pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Le débat du jour, Lyon pourra-t-elle atteindre le dernier carré selon vous ? C'est la question que l'on s'est posée avec cette équipe de Lyon. Allez, sans plus tarder, c'est parti, go go Time Sport.
Time Sport. Il est pour parler.
Allez, ce soir, on sera en compagnie de Benji. Bonsoir Benji, comment ça va ?
Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir à tous, bonsoir Bilal. Mais écoute, en pleine forme. En pleine forme pour ma première de la semaine. En plus, il y a l'Olympique Lyonnais qui joue ce soir. Donc forcément, ma tête n'est qu'à au quart de finale de Coupe de France. Je m'envole. Mais non, très très hâte du coup forcément de voir cette équipe jouer ce soir. Et puis en plus, il y a la F1 qui revient
qui reprend cette semaine. C'est vrai.
Mais plein de bonnes choses qui se passent en ce moment. Donc très très cool, très heureux. Et en plus, j'ai repris le tennis, mais ça c'est à titre personnel, je suis très heureux de reprendre le tennis. Plein de sport en ce moment, c'est le bonheur.
Ouais. Bah là ça va être quelque chose en tout cas, avec Ryan qui est avec nous ce soir, hein, ouais, pour ce début de semaine.
Bonsoir Ryan. Bonsoir à tous. Voilà, je suis très très heureux de faire ma première cette semaine. Voilà, on est mardi et j'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Il commence un peu à faire froid, j'avoue, avec tout cette intempérie un peu bizarre, ce temps un peu bizarre, mais bon, on est quand même heureux. On est quand même heureux d'être parmi vous ce soir à Beurre FM dans l'émission de Time Sport.
Ben nous aussi avec Mathieu qui nous accompagne. Bonsoir Mathieu, comment ça va ?
Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde. Ben écoute, ça va. Je suis très heureux d'être là aussi pour ma première de la semaine.
Eh oui.
Et je te rejoins Ryan, il caille dehors. Donc,
il fait froid sur Paris,
on est bien,
sa région.
On est bien au chaud dans ce joli studio pour Time Sport. Donc, et il y a encore de belles choses à dire et on a encore du boulot.
Bien sûr, on a du boulot. On a Nasser qui nous écoute ce soir. Un petit mot peut-être concernant le football italien, Mathieu. Oui. Le football italien, ce championnat qui est la Serie A.
Ouais, avec
et ses clubs aussi italiens.
Avec l'Inter qui domine assez largement ce championnat, avec un Lautaro Martinez et un Marcus Thuram devant qui sont très efficaces. On voit qu'Alexis Sanchez, qui est parti de l'OM, joue beaucoup du côté de l'Inter. Donc,
mais il joue plus à Marseille.
On est ravis. Mais c'est de l'ironie. Hein, il joue
bien
pas
sûr,
du tout.
Bien sûr.
Donc voilà. Mais sinon, on a la Juve qui reprend un peu des couleurs. Le Napoli qui est assez loin. Et j'ai pu voir ce week-end un contrôle magnifique de Paulo Dybala.
C'était pas mal aussi.
Et franchement, sur ce contrôle de Dybala, on voit même de Rossi qui s'extase sur le banc de touche. Donc, si vous l'avez pas vu, c'est à voir sur les réseaux sociaux.
Ouais, le but de Léo aussi, je conseille. Hein. Son petit débordement côté gauche, il rentre et à peine il repique dans l'axe, il va chercher la lucarne à l'opposé, absolument magnifique.
Et moi, ce que j'aime bien dans ce championnat, c'est que cette saison-là, il n'y a pas de stars en fait.
Ouais,
cette saison-là, il n'y a plus de stars. Wow. Là, il n'y a plus de stars. Voilà, quand je parle de stars, je parle des joueurs comme Mohamed Salah, comme Harry Kane, comme des Lewandowski, Karim Benzema, Kylian Mbappé. Il n'y en a pas.
La définition qu'on donne de stars, tu vois, après, ça dépend.
Oui, ça dépend comment, bien sûr.
Dans cette, pas encore.
Dybala,
il a quand même l'expérience aussi derrière.
Non, pour moi, c'est pas
le meilleur joueur africain avec le ballon d'or africain. On peut peut-être
pas l'oublier.
Pour moi, les gars, on va pas se mentir, mais pour désigner un joueur star, c'est un joueur qui a un gros palmarès.
D'accord, je vois ce que tu veux dire.
Un bon palmarès. Et pour moi, que ce soit Léao, Lautaro Martinez, ce sont de très bons joueurs, bien sûr. Ce sont des joueurs avec beaucoup d'expérience. Mais pour ma part, ce ne sont pas des stars. À l'époque, effectivement, on avait des Cristiano Ronaldo. C'était voilà, on avait pas mal de stars en Serie A. Là, en l'occurrence, on en a plus.
Et à noter juste aussi, Bilal, c'est la performance de Thiago Motta avec Bologne, hein, qui est quatrième de ce championnat-là. Donc Thiago Motta qui fait un bon travail dans sa nouvelle carrière d'entraîneur maintenant.
Et on le savait. Un bon coach.
Et qui est quatrième avec Bologne devant la Roma, la Talenta, la Lazio, etc., etc.
Solal, qui est avec nous à la réalisation, qu'on pourra retrouver jusqu'à 23h. Solal, des petits coups de pression par-ci par-là, mais il est toujours efficace, ça.
Bonsoir à tous, ouais, Pépère, j'espère que vous allez bien. Écoutez, chers auditeurs, franchement, on vous prévoit à chaque fois des programmes incroyables. Vous venez de sortir d'une interview avec Marco Mouli, franchement.
C'est ça,
si vous
Marco Mouli
pas,
qui était dans les informés.
Je
ne
sais pas
ça.
De quelle planète vous venez. Ouais. Et là, vous êtes sur Time
Intéressant.
Sport. Pendant une heure, on va parler de foot. C'est votre rendez-vous préféré, chers auditeurs et auditrices, fans de sport ou non. Si vous voulez réagir, bah, comme d'hab, 01 53 48 3000. Vous avez à votre disposition de très beaux messieurs autour de cette table, chiquement habillés, qui seront prêts à débattre avec vous avec passion et amour. Et Bilou, voilà, toujours avec ce beau
on
casque sur les oreilles.
Et sa chemise, et sa fameuse chemise.
La chemise. Ouais, ça va.
Chemise des grands soirs.
Elle est pas mal, ça va, elle est pas mal, ouais. On dirait la Girino, mais ça va. Justement, j'aime bien la Girino, on l'avait reçue dans cette émission en plus. On parlait de Benzema à l'époque et de Didier Deschamps, Benji. On va essayer de prendre le chemin de Séville en Espagne pour retrouver HD. Et voilà, HD était en conférence de presse, on le rappelle, hein, demain, mercredi 28 février. Coup d'envoi 19h heure française, c'est au stade de la Catedral du côté de Séville, hein, où la finale de la Nation League version féminine aura lieu. Et les Français rencontreront justement l'Espagne, champion du monde en titre. Un petit, allez, on va voir des, on va avoir le ressenti d'un certain, ben, l'entraîneur Hervé Renard et aussi de Le Sommer dans cette émission. On y va.
C'est un peu nouveau, donc je pense que les gens ont peut-être encore du mal à prendre conscience de ce que c'est, mais pour moi, c'est un titre, c'est une compétition, c'est voilà, l'équipe qui gagne, pour moi, les championnes d'Europe. Donc, c'est un titre important et c'est pour ça qu'on mesure l'importance de cette compétition et l'importance de remporter ce titre. Aujourd'hui, je considère que c'est une compétition importante. C'est un peu nouveau.
Ouais, justement, une compétition très importante, la première. À désigner, bah ouais, non, pour toi non, Mathieu, avant de retrouver Hervé Renard et HD aussi.
Non, parce que quand cette Nation League a été créée, déjà.
La France l'a gagnée, hein, avec
oui.
Les garçons.
Ah oui, mais enfin, qu'elle l'ait gagnée ou qu'elle ne l'ait pas gagnée, enfin, j'ai toujours vu ça comme des matchs amicaux. C'est-à-dire qu'on a retiré des matchs amicaux pour mettre cette Nation League et je trouve pas vraiment que c'est grand intérêt. Alors que je trouvais que ça avait pas grand intérêt pour les hommes, donc je trouve que ça. Pas grand intérêt pour les femmes, même si les filles sont en finale. Mais je trouve cette compétition un peu. On a retiré des matchs amicaux pour rajouter une compétition, pour donner un trophée en plus. Mais je trouve que ça reste des matchs amicaux.
Ouais, ça reste un titre, ça reste un titre. Ouais. Que tu lui donnes plus ou moins d'importance, après, ça c'est personnel et ça s'entend.
Bien sûr.
Après, qu'elle allait le gagner en affrontant ce qui est sûrement la meilleure équipe du monde depuis un bon petit moment, qui est l'Espagne, qui est archi favorite de la compétition.
Bien sûr.
Je trouve ça normal qu'elle ait le couteau entre les dents et qu'elle prenne des matchs comme ça. Tu vois.
De là à dire que si elle gagne cette Nation League, elles sont championnes d'Europe. Non,
mais on va voir.
Je suis pas d'accord avec Julien Le Sommer.
On retrouve la réaction en conférence de presse d'un certain Hervé Renard.
Ils marquent beaucoup de buts. Dans cette Ligue des Nations, ils ont marqué 26 buts. Mais elle en encaisse aussi beaucoup. Et c'est surtout un collectif redoutable. Vous avez cité Aitana, qui est une joueuse remarquable, mais c'est surtout un collectif dans la récupération du ballon, dans la projection, dans les transitions. Donc on est prévenu.
Eh oui, on est prévenu. Justement, on va essayer de rejoindre là aussi un certain HD qui est du côté de Séville pour ce match de ce mercredi 28 février. On rappelle, hein, l'Espagne qui rencontrera la France en finale de cette Ligue des Nations. Bonsoir HD.
Buenas tardes.
On a l'habitude de l'avoir avec Juan José.
Bah oui.
Ah ben oui, justement. Bien sûr. HD, alors justement, il y en a qui sont un peu trop pessimistes sur le plateau peut-être, en la personne de Mathieu, mais nous on va essayer de l'avoir cette Nation League, même si l'Espagne La Roja est championne du monde en titre avec cette équipe féminine.
Oui, bah effectivement sur le papier, la France n'est pas favorite puisqu'elles affrontent les championnes du monde en titre. Même s'il faut rappeler que la France n'a jamais perdu contre l'Espagne. Il y a eu 13 matchs entre les deux équipes. C'est 10 victoires pour la France, 3 matchs nuls. Le dernier match remonte à 2019, mais l'Espagne, c'est une équipe qui réussit plutôt bien à la France. Donc voilà, les joueuses françaises auront une chance demain. Et après, sur la Nation League, ça fait effectivement débat, y compris dans le milieu du football féminin, parce que contrairement aux garçons, en fait, il y avait des tournois qui existaient auparavant. Il y avait la Chibelis Cup, l'Algarve Cup, qui étaient des tournois qui avaient un certain prestige dans le football féminin. Et finalement, la Nations League, c'est un peu une reprise en main de la part de la FIFA, de l'UEFA sur les compétitions internationales et sur les dates internationales qu'il y a entre les compétitions. Donc finalement, c'est un prestige à construire pour cette Nations League. Quelle que soit l'équipe qui gagnera demain, c'est pas encore une compétition qui a gagné ses lettres de noblesse.
Forcément, ça rapporte plus d'argent que des matchs amicaux. Donc forcément, que ce soit la Ligue ou que ce soit même la FIFA, pardon, qui crée cette Nation League, je me répète, hein, que ce soit du côté des garçons ou du côté des filles, enfin, ça rapporte plus d'argent et de bénéfices que de simples vulgaires matchs amicaux, quoi.
Après, l'avantage, c'est que moi je trouve que la Ligue des Nations, elle est plus judicieuse chez les femmes que chez les hommes, parce que ça permet effectivement d'avoir un peu plus on a plus de matchs, on va dire, chez les féminins.
Mais il y avait déjà des compétitions.
Ça met en valeur. Oui, mais on va pas se mentir, et ça on l'a toujours su. Les femmes ne sont malheureusement pas mise en avant comme il le faut. Aujourd'hui, le football féminin évolue de plus en plus et c'est vrai que pour moi, pour ma part en tout cas, d'avoir une compétition à haute intensité pareille, c'est d'autant plus régalant, en tout cas pour ma part.
Mais tu la regardes, la Ligue des Nations féminine?
Ouais. J'avoue, même la Ligue des Nations masculine, je ne la regarde pas, tu vois. Voilà. Cette saison, j'ai un peu regardé, même du côté de l'Espagne, parce que j'aime beaucoup cette nation, que ce soit masculin, et j'ai appris un peu côté féminine avec Putellas, Bonmati, c'est des joueuses qui sont exceptionnelles. Et c'est vrai que là, pour le coup, en tout cas pour la finale, ça va être compliqué. Parce que les meilleures joueuses d'Espagne sont la plupart barcelonaises. Ouais. Donc ça va être compliqué en tout cas.
Comme le Barça est la meilleure équipe du monde avec l'Olympique Lyonnais qu'on peut placer par là aussi.
Attention, les autres clubs reviennent vite, hein. Mais voisins européens.
Mais honnêtement, HD disait que l'équipe de France s'était jamais inclinée contre la France.
Bah pourquoi pas.
Oui, mais
la
bonne époque où l'équipe de France, voilà, si je peux me permettre, avait
avant de retrouver HD pour terminer,
effectif et avait plus de galons déjà de point de vue international dans le football que l'Espagne à ce moment-là. Je trouve que l'avènement de l'Espagne en tant que grosse équipe féminine de football arrive à peu près au moment où on les a joués pour la dernière fois, entre guillemets. Ouais.
Donc demain, si l'équipe de France s'impose, ça sera un exploit.
Ouais. HD ?
Oui, alors moi je dirais pas que c'est un exploit. Je dirais que les deux équipes ont leur chance, même si l'Espagne est un peu devant, en rappelant qu'il y aura deux absentes de marque a priori demain sur le terrain. Donc il y a Wendy Renard qui est forfait et qui suivra le match depuis les tribunes, donc la capitaine historique de l'équipe de France, et a priori Alexia Putellas, donc qui est blessée depuis un peu plus de 3 mois. Donc il y a un peu un jeu d'intox de la part de la sélectionneuse espagnole pour dire voilà, potentiellement elle peut jouer, mais tout en sachant que a priori elle est encore en reprise, quoi, en retour de blessure. Donc c'est deux joueuses qui sont quand même des figures du football féminin international. A priori, ne seront pas sur le terrain. Donc ça peut aussi avoir son incidence sur l'issue de la rencontre. Et après, enfin, pour donner des chiffres, il faut savoir que effectivement, pour la première fois, donc avec la mise en place de cette Nation League, il y a un prize money qui est de 160 000 euros pour l'équipe vainqueur. Donc c'est dérisoire à côté de ce qu'il y a chez les garçons, mais l'UEFA et la FIFA mettent de l'argent pour tenter de créer un peu un engouement, une dynamique autour de ce nouveau tournoi, qui, je rappelle, remplace des tournois prestigieux qui existaient dans le football féminin depuis 25-30 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment une légitimité à construire. Et si on voit des beaux matchs, je pense que les gens petit à petit adhéreront éventuellement à ce nouveau format. En rappelant aussi, dernière chose, que cette Nation League en fait sert de tournoi de qualification olympique. Donc l'Espagne est d'ores et déjà qualifiée. C'est la première fois que l'Espagne ira aux Jeux Olympiques donc chez les filles. Et le match pour la troisième place entre l'Allemagne et les Pays-Bas donc déterminera qui accompagnera l'Espagne et la France aux Jeux Olympiques cet été à Paris.
Un grand merci HD pour toutes ces belles informations sur la planète football féminin. Vraiment. Et à très vite. Ouais, à très vite, HD. On va le retrouver pour justement demain la finale et on essaiera de l'avoir avec nous ce jeudi en plateau. Oui, Mathieu, pour revenir.
Oui, non. Alors, c'était surtout
Lyon qui nous attend avec Mbappé.
À Puteyas qui serait forfait demain. Mais s'il revient de 3 mois de blessure, en sachant qu'il y a le titre à aller chercher en Espagne avec le Barça plus la Ligue des Champions, je trouve ça logique de la laisser de côté pour cette finale de National League.
Quart de finale ce soir, Lyon face à Strasbourg. On va essayer de revenir de suite après la pause. On marque d'une courte pause et on revient avec toute l'équipe de Time Sport.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce mardi 27 février, 20h17 à l'approche de ce match tant attendu. Et oui, l'Olympique Lyonnais qui accueille donc le Racing Club de Strasbourg en quart de finale ce mardi 20h45. Et oui, Benji sera sur la route, il ratera un peu le match, mais ça fait rien. Allez, les compos tant attendus pour les clubs, on va les balancer de suite après avec Mathieu. Mais place au match de ce soir.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, elle est chère cette parole, n'est-ce pas Benji? Et Lyon pourra-t-elle le faire, cette équipe? Eh oui, être sacré champion. Champion, oui, vainqueur de la Coupe de France du moins.
Ouais, et avant de partir sur mon point, je vais donner la composition d'équipe, tu le parles,
vas-y.
Parlais juste avant Bilou. Du côté de l'Olympique Lyonnais, du coup, je pense
que
à Strasbourg de son côté, on aura du coup Lucas Perry dans les buts, Maitland-Niles, O'Brien, Kalaitachar, Tagliafico, Kakré, Matic, Mangala, Nouama, Benrahma, Lacazette. Donc sans grande surprise évidemment, sauf Anthony Lopez qui laisse sa place à Lucas Perry dans les buts parce que ce sera le gardien. Maintenant, je pense que c'est assez clair qui jouera la Coupe de France. Peut-être pour aussi l'habituer à avoir un certain temps de jeu, parce que peut-être que sans tirer sur l'ambulant, je pense qu'Anthony Lopez est quand même bien plus proche de la fin que du début de sa carrière. Ça fait déjà 10 ans qu'il est à l'Olympique Lyonnais, qu'il est dans les buts de l'Olympique Lyonnais. Donc
alors,
je pense que je trouve ça très bien qu'on mette en avant Lucas Perry, qu'on ramène un peu de concurrence, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, c'est très 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 en dents de scie. Anthony Lopez, il est capable de te sortir une grosse parade à un moment et te faire une grosse boulette dans la foulée qui te coûte des points. Donc donner de la confiance à Lucas Perry, donner du temps de jeu, commencer à l'acclimater, je trouve ça très bien. Et après, à côté de ça, c'est ce qu'on attendait. C'est le milieu de terrain qui joue depuis le mercato, depuis que tout le monde est revenu. C'est la défense qu'on attendait avec un Maitland-Niles qui est absolument rayonnant depuis
métamorphosé
depuis l'arrivée de Pierre Sage et notamment depuis la trêve, qui est capable de dépanner aussi bien à gauche qu'à droite, que dans une défense à 3, que dans une défense à 4. Ce qui donne beaucoup de moyens à l'entraîneur Pierre Sage de pouvoir s'adapter en match. Et comme on sait qu'il adore ça, c'est vraiment un vrai tacticien pour le coup, ouais. Pierre Sage, il adore avoir des joueurs comme ça et c'est pour ça qu'il est titulaire ce soir. Le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui cartonne, c'est un milieu de terrain qui a sa tour de contrôle Matic, qui a la possibilité du coup aussi bien de pouvoir monter la balle que sur certaines phases, pouvoir redescendre et prendre la place d'un défenseur central. Pour laisser du coup beaucoup plus de liberté à Kakré et à Aurel Mangala, ce qui leur permet souvent de se retrouver en position de buteur comme on l'a vu sur les matchs récents. Et puis l'attaque, Nouama, Lacazette, Benrahma, sans surprise Benrahma qui a été buteur dans le match face à Metz, donc qui a gagné sa place de titulaire aux dépens de Gift-Orban, qui aurait pu être titulaire en pointe pour faire souffler un peu Alexandre Lacazette, mais ça montre que Pierre Sage ne prend pas cette équipe de Strasbourg à la légère et qui veut aller essayer de prendre cette qualification en demi-finale, qui ferait le plus grand bien à l'Olympique Lyonnais, parce que l'Olympique Lyonnais doit jouer le titre en Coupe de France pour s'assurer une place européenne.
Après, si vous voulez des stats,
alors Yann, les stats et la compo aussi de Strasbourg.
L'Olympique Lyonnais n'a pas perdu un match depuis le 4 janvier 2024, tandis que Strasbourg, eux, ont perdu tous leurs matchs de championnat depuis 2024. Voilà, ils n'ont pas gagné un seul match en championnat. Ça a été que le match en Coupe de France contre Le Havre. Et c'est vrai que pour ma part, en tout cas, ce soir, Lyon a toutes ses chances. Voilà, parce que c'est des joueurs, mine de rien, très très bons tactiquement. Surtout les joueurs sur le devant de la scène. Hein. On a parlé de, bien sûr, de Benrahma. On a parlé aussi de Lacazette, de Nouméa aussi, le jeune Ghanéen, il me semble. Ce sont des trois joueurs qui fonctionnent bien, qui ont l'air de bien fonctionner tous les trois. Matic qui tient la baraque. Voilà, Matic qui ne déçoit pas. Franchement, c'est un joueur qui ne déçoit absolument pas. Il est passé. C'est un joueur plein d'expérience, donc forcément ça va être dur de les passer. Après, faut faire super attention parce que généralement quand Lyon joue contre un adversaire qui joue bloc bas, il se déstabilise assez rapidement. Pour le coup, on a eu pas mal d'exemples cette année, et c'est vrai que Strasbourg ont l'habitude effectivement de jouer sur les contre-attaques avec Gamero en pointe. Donc ce soir, moi, je mise effectivement une victoire de Lyon, mais attention.
Ouais, oui. Attention.
Attention, si tu peux me permettre avant de passer la parole à Mathieu.
Vas-y, Mathieu.
On est quand même toujours
l'équipe
sur une équipe
de Strasbourg
qui revient d'une grosse maladie et qui est en train de guérir, qui n'est pas encore totalement guérie. Voilà, sur les derniers matchs.
Mais ça revient bien.
Ça revient bien, ça prend des points, ça gagne. Donc ça, c'est cool. Quand d'un point de vue comptable, c'est très cool. D'un point de vue jeu, c'est très bien. J'ai pas vu de cohérence tactique et technique comme ça à l'Olympique Lyonnais depuis très longtemps. Il faut peut-être remonter au premier mois de Peter Boss pour voir autant de cohérence tactique. Il y a peut-être eu un petit peu de Rudiger, ça, mais vraiment parcimonie, parce que c'était vraiment pas fou dans le jeu. Je parle pas en termes de résultats, je parle dans le jeu. Peut-être que sinon c'est Rémy Garde. Il faut remonter pour avoir vraiment une cohérence comme ça
remonte à loin
dans le jeu. Et donc ça, c'est très plaisant déjà en tant que supporter lyonnais.
Oui, Mathieu, ça te fait sourire. La compo avec justement de quart de finale avec Strasbourg.
La compo strasbourgeoise avec Bellerouche dans les buts, Gilbert, Sau, Perrin, Doucouré, Delaine en défense, défense à 5, donc Sissoko Mwanga au milieu et devant Angelo, Bakwa et l'ancien parisien Kevin Gamero.
Gamero.
Pour revenir sur ce que disaient les copains, c'est que ça me fait penser un petit peu à... Attention à ce que je vais dire, mais c'est...
Ouais. Allez, dis-nous.
Par rapport à l'Olympique de Marseille.
Alors Marseille, pourquoi ?
Entre Jean-Louis Gasset et Pierre Sage, qui sont vraiment arrivés au début, je parle du début de Pierre Sage, vraiment en tant que psychologue, plus que tacticien. Là, on voit le côté tactique, comme disait Benji, de Pierre Sage, qui a mis sa touche, etc. Ça va venir, j'espère, c'est déjà arrivé pour Jean-Louis Gasset, mais pour revenir à Lyon, il faut déjà savoir que Strasbourg a battu Lyon en début de championnat 2-1, et que il faut que Strasbourg compte sur la Coupe de France, puisque Strasbourg, c'est très compliqué en championnat, comme l'a dit Ryan.
Ouais.
Lyon, ça va beaucoup mieux.
Ça va beaucoup mieux.
Pour aller jouer l'Europe, ça reste quand même encore compliqué.
Ça va beaucoup
mieux. C'est toujours plus opération maintien qu'opération Europe actuellement. Quand là,
on parle encore plus de l'opération maintien du côté strasbourgeois. Parce que là. Et la défense à 5 avec ses deux milieux défensifs, c'est vrai que de jouer à 6-7 défenseurs ce soir, c'est. Ça risque d'être compliqué pour Strasbourg, avec Lyon qui est favori évidemment. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai senti depuis le recrutement de l'Olympique Lyonnais déjà des joueurs très intéressants qui sont arrivés. On a vu avec Aurel Mangala qui est la titulaire, avec Benrahma qui a marqué contre Metz, qui fait des bons matchs. Et on a quand même des bons joueurs même sur le banc. Donc il y a vraiment de...
Bien sûr, Mathieu.
On va essayer de retrouver Farid. Au-delà d'amener toutes leurs qualités dans le jeu d'un point de vue individuel, ils ont permis de rebooster toute une équipe. Mmh. Ils ont permis de, excusez-moi l'expression, mais de faire sortir les doigts à certains joueurs qui les avaient bien rangés. Et il y a des joueurs qu'on retrouve et que l'on redécouvre entre guillemets. Tu vois, par exemple, un gars comme Maxence Cacré, qui est peut-être depuis quelques matchs le meilleur Olympien.
Selon Mendy.
Sur le terrain, dans le sens où il est totalement rassuré par Matic à côté de lui.
Matic a rapporté une telle
sérénité. Et Maxence Cacré a toujours eu un peu cette qualité qui peut être aussi un défaut par moment, même si je pense qu'il pourra vraiment travailler dessus. Voilà, c'est qu'il se calque énormément sur les personnes qui sont avec lui. Ça veut dire que si tu lui mets le meilleur milieu défensif du monde à côté de lui, ou le meilleur milieu de terrain du monde à côté de lui, bah ce sera le meilleur milieu de terrain du monde sur le terrain. Et ça, c'est quand un mec comme Matic qui le rassure derrière, il joue beaucoup plus libéré, parce qu'il était beaucoup utilisé en 6 aussi quand il n'y avait pas Matic. Donc forcément, ça le libère, il peut laisser beaucoup plus de créativité, prendre plus de risques, et c'est là où il est excellent. Et là où je disais que Lyon était encore un petit peu malade et qu'il faudrait toujours faire attention, pas s'enflammer, même s'il y a énormément de mieux et que je prends énormément de plaisir à regarder Lyon, comme je l'ai déjà dit, c'est que tu sens que la maladie, entre guillemets, pour continuer sur ma sur ma métaphore, et ben par parcimonie comme ça, elle revient et elle te met une petite claque derrière la nuque et tu le vois très vite que ça peut vite se démobiliser. C'est très cohérent tactiquement, alors, mais c'est très exigeant tactiquement aussi. Et donc quand là, l'exigence prend le dessus, par exemple, t'as certains joueurs qui vont faire une petite erreur et comme c'est très exigeant, ça amène à un but.
Mais là t'es au niveau, t'es obligé d'être exigeant.
Je te donne l'exemple, c'est parce que contre Metz, tu vois, ouais, par exemple, ce qui pourrait très bien arriver contre Strasbourg, comme l'expliquait
ce soir
Ryan tout à l'heure avec le bloc bas, en c'est que si tu fais une, si tu perds le ballon,
oui,
sur une phase offensive,
oui,
il y a beaucoup de pertes de balles contre Metz,
très vite exposé.
Ouais.
Et ça, ça peut, et ça, ça peut très vite arriver sur des séances où Matisse
monte
le ballon et où se place plus en tant que défenseur central.
On a Farid.
Il y a beaucoup d'ouverture.
Au 01 53 48 3000. Bonsoir Farid.
Bonsoir Bilal. Bonsoir à tous.
Eh oui, on parle de Lyon, Farid. D'accord ou pas?
Oui, oui, bien sûr, je vous écoute depuis tout à l'heure, ça fait plaisir. Bah, écoutez, oui, jour de fête aujourd'hui, gros match. C'est quand même un quart de finale de la Coupe de France. Bien sûr que Lyon va mieux depuis quelques journées, quelques semaines. Maintenant, moi, j'ai envie de souligner surtout le travail de Pierre Sage, il faut quand même l'avouer. Et surtout, ce qui nous a rassurés, c'est ses choix. On voit que c'est un gars qui maîtrise sa communication et qui maîtrise aussi son groupe. Il a l'air de pas faire de cadeaux aux joueurs. Voilà, il a l'air de suivre au quotidien son équipe, son groupe. Donc ça, déjà, c'est rassurant. Maintenant, Strasbourg, effectivement, faut faire attention. C'est une équipe qui va pas très bien en ce moment, mais ça reste un match de coupe qui n'a rien à voir avec le championnat. Donc un match de coupe, effectivement, ça peut être spectaculaire. Maintenant, Lyon, faut pas oublier, joue à domicile. J'ai même vu que apparemment le stade serait à guichet fermé. Ça fait très très longtemps que Lyon n'a pas joué avec un stade plein. Donc c'est pas négligé. La bonne nouvelle aussi, c'est que à Metz, avec une très belle victoire, enfin une belle victoire, on a eu quand même, voilà, c'était pas non plus un match maîtrisé de A à Z, mais on a vu Matic qui nous a mis une claque quand même. Moi, je vous avoue que lors de son premier match, c'était mitigé, mais là, face à Metz, franchement, il a montré que c'était un taulier au milieu de terrain. Incroyable, ça a libéré Cacré. Là, on a l'attaque type avec Lacazette, Nouama et Benrahma à gauche qui a marqué son premier but à Metz. Donc, qui l'a libéré d'ailleurs, parce qu'on l'a vu après son but, qui courait un petit peu partout, donc il avait retrouvé sa capacité physique. Et donc, ce qui est intéressant aussi à Lyon, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit banc quand même qui devient intéressant, avec surtout l'attaque qui est doublée, hein, avec Orban, Malik Fofana, et on a Cherki aussi. Le seul petit bémol, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la défense centrale, où je suis pas très fan d'O'Brien. Voilà, et je m'attendais à voir peut-être un jour Adrielson, mais il tarde à apparaître. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le défenseur brésilien. Mais voilà, et Lucas Perry va honorer sa place aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. Donc il y a plus qu'à voir et à espérer.
Ouais, alors Mathieu, réaction juste, avec Benji aussi.
Ouais, je vais juste répondre
à Farid.
Répondre rapidement à Farid. Je te rejoins sur beaucoup de points évidemment, notamment sur la profondeur de banc. Ça fait vraiment extrêmement de bien l'Olympique Lyonnais qui était souvent un peu à flux tendu sur depuis bon nombre de saisons et notamment depuis début de saison et sur la défense centrale effectivement O'Brien. Alors je trouve que c'est un excellent défenseur dans une défense à 3, dans un rôle de couverture, dans ce rôle de défenseur à 3 central, parce qu'il est très rapide et il peut permettre justement d'aller couvrir des longs ballons et prendre de vitesse certains attaquants. Cependant, je suis d'accord avec Farid dans le sens
ouais. Alors,
où pour moi, dans une défense à 4,
ouais,
à côté d'une autre, il est un petit peu limité. Et je suis d'accord aussi sur le point d'Adrielson. Après, Adrielson, il va payer un tout petit peu son... Je mets des guillemets parce qu'il venait à peine d'arriver, il a joué une mi-temps, son mauvais match avec des guillemets face à Bergerac. Il avait joué lors du match face à Bergerac et malheureusement j'ai l'impression que il a encore peut-être un petit peu de mal à s'acclimater dans l'effectif lyonnais, à prendre sa place et à avoir ce rôle de taulier qu'on attend d'un défenseur central, peut-être encore un petit peu tendre pour jouer dans le championnat de France, mais j'ai grande confiance en Pierre Sage pour arriver à l'imposer au fur et à mesure. Donc je préfère qu'il nous mette un choix de O'Brien pour le moment, même si dans une défense à 4, il ne me rassure pas énormément, dans le sens où il a du rythme et où il a l'habitude de jouer, même maintenant depuis quelques matchs dans cette défense, à côté de Caleta Char. Et une nouvelle fois, où je suis très content
comme avait commencé à le souligner Farid, c'est dans la communication de Pierre Sage, dans les décisions qu'il prend, ouais. et dans le fait qu'il nous parle football. Ça fait longtemps qu'à l'Olympique Lyonnais, on avait besoin d'un entraîneur qui nous rassure en osant même dire des erreurs, dire ok, ça j'ai moins bien fait, ça peut-être à ce moment-là dans la rencontre, moi ce que je me dis c'est ça, donc je fais telle analyse, je fais tel changement.
Lucide, et du coup,
il a l'air un peu serein, tu vois, pas serein dans le sens il prend par-dessus la jambe. Évidemment qu'il est stressé, évidemment qu'il stresse comme tout le monde, mais au moins il t'explique ses choix. C'est-à-dire que même s'il se trompe, c'est le genre de gars qui vient en conférence de presse et il te parle de football. Tu dis ok les gars, j'ai peut-être merdé là-dessus, mais le prochain point on fera comme ça. Et c'est hyper agréable quand t'es supporter, parce que quand t'es supporter, tu te poses beaucoup de questions sur la tactique, sur la technique. Tout le monde se dit qu'on pourrait être entraîneur. Et quand t'as un gars qui t'explique ses choix, c'est tout de suite beaucoup plus facile de le soutenir dans une défaite ou dans un moment qui est un petit peu moins bon. Et c'est pour ça que je disais, peut-être que Farid me rejoindra là-dessus.
Alors,
c'est que ça fait très longtemps, Farid, et tu me diras aussi ce que t'en penses, que je n'ai pas vu autant de cohérence tactique et technique lors des matchs de l'Olympique Lyonnais. Il y a un plan de jeu et il essaye d'être suivi.
On termine avec Farid sur Lyon.
Oui, complètement. Déjà sur O'Brien, je suis entièrement d'accord. Il est très bon dans la couverture. J'ai l'impression qu'il manque un peu de confiance en lui. J'ai vu quelques fois qu'il était un peu en panique. Mais bon, ça peut être normal. C'est vrai qu'il a une vitesse sur laquelle il s'appuie. Donc on va faire avec. J'aurais espéré voir Mata quand même aujourd'hui, parce que. Mais bon, c'est pas grave. On verra qu'est-ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est un match hyper important. Parce que quand on voit, l'Olympique Lyonnais a pris conscience qu'ils sont à deux paliers d'une porte pour la Coupe d'Europe, quoi. Ouais. Ça serait quand même incroyable de voir qu'il y a à la 7e ou la 9e journée, il me semble, Lyon était dernier du championnat. Et pourrait accéder à la Ligue Europa, par exemple. Donc ça serait vraiment incroyable.
Ouais.
Il reste deux marches, mais bon, il faut les passer. Il faut respecter Strasbourg. Après, on voit qu'il reste quand même des clubs comme Rouen, Valenciennes, Le Puy. Mais bon, la Coupe de France,
Paris Saint-Germain aussi. Hein.
Et il y a Paris, bien sûr, qui reste favori.
On ne les compte pas,
Il va recevoir Nice. Mais on verra bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut faire le boulot. On verra qu'est-ce que ça donne. Et puis que le meilleur gagne. En tout cas, j'espère que Lyon sera vainqueur.
Ah ben voilà, sera vainqueur pour Farid. Peut-être un pronostic. Farid. Un pronostic, Farid.
J'ai envie de dire 3-2 pour Lyon.
Allez, 3-2 pour Lyon. On donnera les pronostics de toute l'équipe de Time Sport à la fin de cette émission. Vous restez avec nous. Et oui, c'est le gros sujet de la soirée. C'est le fameux dîner du côté de l'Elysée avec Kylian Mbappé et toute la délégation du football français. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie. 20h et 36 minutes, on est en live. Vous faites comme Farid et vous composez le numéro du standard de Beurre FM, le 01 53 48 3000. Dans la joie et la bonne humeur, on aborde le dernier gros dossier de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, eh ben justement, on revient sur le Paris Saint-Germain, la capitale française, où on a pu entrevoir aujourd'hui, ce soir, en début de soirée, Mbappé qui marchait dans la cour de l'Élysée. Et justement, avec ce fameux dîner, peut-être d'adieu, c'est ça, non? Oui, d'un certain au revoir, on va voir avec l'émir du Qatar, qui pourrait peut-être lui faire une dernière offre. Ça fait sourire Mathieu, je sais pas pourquoi.
Oui, parce que
et
ça
aussi,
me fait sourire, oui.
Ouais, eh ben, on n'aura pas que aussi l'émir du Qatar, on aura Nasser Al-Khelaifi, le président de la FFF, Monsieur Diallo, sans oublier aussi le président de la Ligue de football professionnel, un certain Monsieur Labrune. Mathieu, vas-y, ça te fait sourire.
Ça te fait sourire parce
allez,
que
vas-y.
C'est un dîner d'au revoir, il va arriver à l'Elysée, il va dire hola a todos. Il va dire voilà, je m'en vais en Espagne, j'ai appris l'espagnol, je parle plus français, ça y est, je parle que espagnol maintenant. Non mais pourquoi faire? Pourquoi faire ce dîner à l'Elysée, Bilou?
Eh ben là. On sait pas.
Pourquoi pour essayer de le faire changer d'avis, mais c'est trop tard.
Peut-être une dernière offre. Hein.
Mais c'est trop tard. Apparemment, depuis le début.
Macron voudrait lui offrir le poste.
Le président Macron, alors.
Voilà, voudrait lui offrir le poste de ministre des Sports.
Mais non, quand même pas. Ryan.
Franchement, je trouve que.
Alors,
il y a un peu de jalousie quand même, hein, les gars.
Il y a un peu de jalousie. Pourquoi?
C'est un peu tard. Apparemment, il y a zéro négociation.
C'est-à-dire que. Pour dire au revoir.
C'est un dîner. Bon.
Merci pour les services rendus. Et puis.
Peut-être que derrière, il y a des raisons, effectivement. Ils vont parler de certaines choses, de droit à l'image. On ne sait pas. Peut-être ils peuvent évoquer beaucoup de choses. Après, ce qui me fait rire personnellement, c'est effectivement le statut des deux personnes, c'est-à-dire qu'on a un jeune footballeur qui est invité à dîner chez le président de la République. C'est ça, moi, qui me fait le plus rire. Après, ouais. Le pourquoi du comment, ça ne m'intéresse pas. C'est juste l'incohérence entre les deux parties. C'est marrant, c'est drôle. Après, bon, voilà, c'est à mon avis, comme je l'ai dit, il doit y avoir diverses raisons. Je pense qu'on en saura peut-être un peu plus durant les prochains jours, parce que il y a toujours des tops, il y aura toujours des petits scoops.
De là à ce que tout ce monde-là soit invité. On a le président de la Ligue, on a le président de la Fédération, on a le président du Paris Saint-Germain, on a l'émir du Qatar.
C'est Mbappé qui a inventé.
Il y a Kylian Mbappé. Alors, ouais, mais je veux bien.
L'invité, c'est Mbappé, c'est pas Gamero.
Que tout ce monde-là soit invité.
Je vais l'interroger qui va être invité, frère.
Non, mais alors, parle bien du capitaine de l'Olympique de Marseille, s'il te plaît.
Tu vois, je l'aime beaucoup. Mais bon, voilà, après, Mbappé, voilà, c'est la tête de l'équipe de France.
Capitaine.
On va dire que c'est le capitaine de l'équipe de France, c'est à son image, je pense. Et pour le coup, en tout cas pour ma part, tant mieux pour lui, tant mieux pour Kylian Mbappé. Ça lui fait de l'expérience d'aller voir l'Elysée, de voir un peu le.
Ouais, il est déjà allé.
En 2018.
Je pense que c'est là ce soir, il va être tout seul. Il y aura pas de ses coéquipiers, il y aura pas ses parents, il y aura personne, il y aura que lui avec les différents présidents. Et pour le coup, je trouve ça.
Il veut savoir les dessous du dossier.
Oui,
il a envie de savoir aussi.
Peut-être.
Il a déjà essayé de le faire changer d'avis et de le faire rester au Paris Saint-Germain.
Il a réussi une autre fois quand il a été élu par Élé, qu'il a dit tu représentes beaucoup pour la France, il faut que tu restes pour le pays, il faut que tu restes pour le championnat.
Il y a un événement qui arrive là, je sais pas si vous l'oubliez, il y a les JO.
Ah bon,
peut-être c'est aussi de parler des.
Dans quelle ville?
À Paris.
Les JO.
Non, les JO, c'est pas à Paris.
C'est
à
Paris.
Les JO, on sera dans la France aussi. Hein.
C'est
bien
pas
sûr,
Bretagne.
Bien sûr. Mais non.
Vous êtes fous.
Il y a même un
papier. Il y a Tony Estanguet qui est normalement présent. C'est pas encore.
Qui est invité aussi. Ouais.
Normalement, le chef de la délégation lors du dîner. Donc peut-être aussi. Si vous faire un peu de promo autour des JO.
Oui.
Avec le Qatar. Moi, je pense que. De toute façon, il a toujours dit qu'il voulait faire les JO.
Je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qui vont y être abordés.
Ben oui, voilà.
Je pense que c'est vraiment un dîner entre quelqu'un qui a une influence énorme
en France,
qui est Kylian Mbappé, qui est l'un des plus grands sportifs actuellement en France, en tout cas qui a une des plus grosses résonances à l'international, avec peut-être d'autres. On pense à des Wembanyama qui actuellement éclate tout en NBA. On a peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure en plus. Mais il a une aura absolument exceptionnelle. C'est en pourparlers, il est au centre de l'actualité parce qu'il va sûrement bouger dans un autre championnat.
Voilà, il va partir de ce pays, donc forcément.
C'est pour dire
Macron, qui est en grand fan de football aussi, a envie peut-être aussi de le voir, de discuter, de parler de ses projets, de son avenir, comment il voit son futur, son avenir,
exactement.
Et de parler aussi de tous les événements foot qui vont se passer en France, foot et même dans le sport en général qui vont se passer en France. C'est un repas entre têtes pensantes du football français et du sport français. Et ce qui me fait rire aussi au-delà de ça, c'est que
alors,
on avait déjà évoqué sur cette antenne. Je diverge un petit peu dans le sens où on avait déjà dit plusieurs fois que c'était Mbappé qui de plus en plus prenait le contrôle du football français, même plus qu'un Didier Deschamps.
Ouais, surtout les supporters du Paris Saint-Germain.
Hein. Et surtout Didier Deschamps est invité ce soir
aussi.
Ah ben alors qu'il y a toutes les plus grandes instances du football français.
Il n'est pas là, c'est le sélectionneur, mais il n'est pas là.
Il
n'est pas là. En tout cas, on a Dounia et Myriam qui nous écoutent, sans oublier aussi Nasser et son fiston à l'écoute de Beurre FM du côté Marseille. Voilà. Le 0153483000, c'est pour retrouver notre journaliste consultant, Juba. Bonsoir, Juba.
Bonsoir, messieurs.
Comment ça va, Juba?
Attentivement depuis tout à l'heure.
Oui.
Ça va, ça fait plaisir de vous entendre. Et là, c'est un gros sujet là qui va être abordé. Et moi, les gars, j'ai envie de vous dire que j'ai bien peur que ce soit le dîner de con ce soir.
Malheureusement,
ou un remake,
Ah, Juba, tu vas très fort, Juba.
Et c'est qui le con?
Alors, mais on arrête aussi. Mais non, mais ne demande pas. Mais Juba, il y a pas. Mais non, mais tu n'es pas obligé de répondre. Alors, Juba.
Alors, donc, on a les acteurs de l'échec du foot français qui vont tous être réunis, ou en tout cas un grand nombre, même si c'est la succession, parce qu'on le rappelle, il y a une dégringolade du foot français avec Noël Le Graët, même si c'est Diallo ce soir, et puis avant il y avait Kyo, et puis Nathalie Bois de la Tour qui vont être remplacées par notre ami Vincent Labrune. Mais je veux dire, c'est des acteurs de l'échec du foot français qui vont rencontrer la légende actuelle du foot français. Ils l'ont déjà pris, excusez-moi, dans un jeu géopolitique que j'ai déjà évoqué un peu pour quelqu'un de bête parce qu'ils lui ont dit tu vas laisser ta carrière sportive de côté et tu vas maintenant servir les intérêts du Qatar, de la France, des JO, patati, patata. Maintenant, je pense que Kylian Mbappé, il doit avoir un sursaut et leur dire d'accord, vous me dites que c'est mon pays et je le respecte, je l'ai toujours respecté, mais il a une carrière sportive à mener et ciao, ciao, quoi. Et je pense que il faut arrêter de le prendre pour une marionnette, ce petit-là, et vraiment aller de l'avant. C'est l'image de notre football, c'est l'image de la France, Kylian Mbappé, et je pense que c'est une image qui est largement perturbée, gênée par les politiques qui gravitent autour, quoi.
Ouais. Ben justement, beaucoup de politiques à chaque fois qui gravitent.
Ah mais non, mais, mais autour de tout en fait,
autour
dès
de tout.
Dès qu'il y a de l'influence quelque part, dès que des gens
c'est tout à fait normal.
Ont de l'impact sur d'autres personnes, bah, les politiques ont envie de s'en emparer. Tu vois, j'ai envie de faire un parallèle qui est très récent.
Alors,
on a pu le voir hier avec notamment le ministre de l'Agriculture qui avait fait un. Qui avait pris une photo avec voilà avec Nostag pour pouvoir partager, montrer qu'il était proche des jeunes, montrer qu'il connaissait entre guillemets Nostag et qui a eu une réponse absolument cinglante sous le tweet du ministre de l'Agriculture en lui disant que c'était tourné dans le sens où il lui avait demandé la photo, qu'il savait pas que ça allait être posté et que c'est de la récupération politique. Donc c'est pour ça, dès qu'il y a de l'influence sur quelqu'un, les politiques gravitent autour, et c'est pour ça que les politiques gravitent autour d'Mbappé.
La Macronie, je pense que même la vachette du salon de l'agriculture, ils auraient pu l'exploiter à des fins de récupération politique.
C'est un peu le gros problème. Tu parlais d'oreillette, s'il te plaît. Non, on va se calmer sur oreillette.
Non, quand même. Quand même, ouais. Là, c'est sympa.
Non, mais c'est un peu le gros problème. Mais voilà, quoi. C'est-à-dire que ce jeune-là, il faut le laisser au bout d'un moment. Il va aller mener peut-être une meilleure carrière ailleurs, avoir une ligue beaucoup plus compétitive. Parce que malheureusement, même si on a ramené le Qatar, etc., eh ben, on n'a pas su renforcer un deuxième gros club. Je sais que Bilou, toi, t'étais attaché à l'arrivée des Saoudiens. On n'a pas accentué dans ce sens-là. En plus, un président qui est supporter de l'OM, il aurait dû appuyer, comme l'a fait Sarko à l'époque, pour faire venir des investisseurs étrangers investir.
Il y avait des Russes du côté de Monaco pendant un temps.
Ouais. Mais ouais, ils étaient venus,
avec Harry Boloviev, avec tout ça, là, toute la clique.
Ouais.
Mais on sait qu'il y a eu le divorce avec sa femme, etc., du milliardaire russe. Et puis aujourd'hui, la conjoncture avec la Russie n'est pas.
Ouais. Jouba, j'ai une question, Jouba. Est-ce que tu penses qu'il y a des raisons assez précises de cette invitation-là?
Je pense qu'ils essayent de lui faire changer d'avis ou d'avoir un éclaircissement sur ses positions, savoir où il veut aller, et puis essayer aussi de. Mais c'est toujours essayer de servir l'image de la France. Mais je pense que l'image de la France, c'est pas en allant contraindre un joueur ou en allant le pousser jusqu'à ses derniers retranchements. Je pense que Kylian Mbappé peut servir l'image de la France et surtout ne pas lui cracher dessus comme l'a fait ce gouvernement de manière honteuse contre Karim Benzema, alors qu'ils auraient pu être totalement aimables avec Karim Benzema qui aime la France et qui aime les Français, pas les Français de CNews. Hein, les Français de CNews, il n'en a rien à faire des Français de CNews.
On est sur Beurre FM. Ouais, Jouba, bien sûr.
Ces Français-là, il n'en a rien à voir. Ils aiment les Français, Karim Benzema, les Français l'aiment bien. Et je pense qu'au lieu d'avoir un Gérald Darmanin qui va cracher sur Benzema, il aurait fallu le
caresser dans le joueur. On parle d'Mbappé.
On revient sur Mbappé, Jouba. Les informés, c'est terminé.
Je pense que Kylian Mbappé, il peut être à l'étranger et servir l'image de la France aussi. C'est pas en restant au PSG qu'il y a d'autres moyens. Et je pense que voilà, c'est juste. Au bout d'un moment, je pense que c'est des joueurs qui ont envie d'avoir une carrière de footballeur. Pas d'ambassadeur, pas de marionnette, excusez-moi. Pas de tout ça, quoi. Je pense que ça doit être respecté, tu vois, Ryan.
Je pense pas, tu vois, je vois quand tu dis qu'effectivement, que s'il part dans un autre championnat, il servira autant la France qu'aujourd'hui. Faut pas oublier que le Paris Saint-Germain, si ils arrivent chaque année en Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à Kylian Mbappé. On se le ment pas. Voilà, Kylian Mbappé a une influence énorme dans cette équipe-là.
Ouais.
Moi, je pense que s'il part, admettons, c'est le cas, hein, et ça, je le dis depuis même cet hiver. Je l'ai annoncé déjà cet hiver-là. Il part au Real de Madrid. Je pense qu'il va se concentrer à 100% au Real. Hormis peut-être forcément les matchs international dans les grandes compétitions avec un équipe de France, là forcément oui, il sera concerné par l'équipe tricolore, mais sinon il n'aura qu'un seul objectif, effectivement, c'est le Ballon d'Or et la Ligue des Champions et rien d'autre.
Et bien sûr, et puis même juste pour rebondir, allez, sur pour le terminer, fait que la qualification du Paris Saint-Germain soit en grandement due à Kylian Mbappé, c'est un fait, mais avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain va dégager près de 400 millions d'euros. Donc je pense qu'avec ça, ils vont pouvoir peut-être se construire, ouais, une équipe aussi et renforcer des postes clés.
Jouba, on termine.
Ben, je pense que oui, tout a été globalement dit par l'équipe. Je pense que maintenant, voilà, ça va être le rendez-vous de l'ultime chance. Il a tenu ses promesses de rester là jusqu'en 2024, de servir les intérêts de la France et d'être un peu porte-étendard, ce qui sera porte-drapeau. Enfin, en tout cas, il portera la flamme olympique. Kylian Mbappé, c'était important qu'il soit aussi à Paris. Et voilà, donc je pense qu'il a rempli ses objectifs. Maintenant, cessons de l'instrumentaliser. Et
on va arrêter alors. Autant
lui, une bonne continuation.
On lui souhaite en tout cas. Comme à Jouba aussi. Et voilà, ben justement. Eh bien, bien sûr. Eh bien sûr, Jouba, comme toujours.
Joueurs,
merci Jouba. Eh oui, Jouba. Mais toujours merci. Studio Jouba. Un grand merci. Une belle soirée, Jouba. Eh ben, on sait pas qu'est-ce qu'il a fait, Jouba. Ouais.
Il a un double appel. Avec Elisée là.
Avec les macros qui le rappellent dans la double appel. Mais non. Mais c'est vrai que c'est pas totalement bête ce qu'il a commencé à évoquer sur la fin. Et si alors, jamais, c'est aussi pour le convaincre de participer au JO, comme on sait qu'il y a Tony Stanguet, etc. et tout, peut-être.
Bien sûr.
Dans le sens de peut-être pouvoir aussi le parler
président du comité. Il a dit qu'il voulait faire les Jeux.
Mais peut-être qu'en plus de ça, il va peut-être lui proposer d'être porté drapeau de la délégation française.
La NBA,
ce serait pas débile.
La mascotte aussi. La NBA, justement. La NBA, on y va, allez, c'est rapide. Eh oui, la NBA avec les Cavaliers ou encore les Warriors, voire les Celtics. Allez, les forces et les tendances du moment, rapidement, avant de retrouver Vanessa à 21h.
Ouais, bah on a les Celtics qui sont premiers à l'Est et premiers de la NBA tout entière avec 8 victoires consécutives. Et derrière, on s'y attendait pas à cette équipe des Cavaliers qui sont deuxième de la conférence Est, qui profitent d'un passage à vide des Milwaukee Bucks qui sont troisième, et quand même avec tous les blessés que les New York Knicks enregistrent avec Julius Randle, avec OG Anunoby, ils se sont bien renforcés pendant la trade deadline, ils ont regagné hier soir et ils sont quatrième de cette conférence Est. À l'Ouest, Minnesota, OKC toujours très fort, numéro 1, et le champion en titre Denver qui n'est qu'à 1,5 match de la tête, donc c'est très très serré. Mmh. Et les Lakers et les Warriors qui sont au coude à coude 9e et 10e.
Ouais.
Ça va pas top du côté des deux franchises.
Ouais, non, mais c'est vrai que on a un peu les deux conférences qui sont dans deux mondes différents. On a d'un côté la conférence Est qui est ultra dominée par cette équipe des
Celtics, la ligue entière,
qui surdomine. Mais je parle vraiment en termes de différence entre le premier et le deuxième de la conférence, l'équipe des Celtics qui a
Huit matchs d'écart.
Voilà, qui est une équipe qui tourne bien, qui se base sur des acquis des précédentes saisons, tout en amené du renfort et des joueurs qui se greffent très bien au collectif de l'équipe. Donc forcément, c'est une équipe qui tourne, qui est selon moi la favorite à la couronne finale. Et de l'autre côté, une équipe une conférence Ouest qui est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus serrée dans le haut du classement, comme l'a dit Mathieu, entre Oklahoma, Minnesota, qu'on attendait peut-être pas à ce niveau-là, et Denver, et même les Clippers qui ne sont derrière qu'à 2 ou 3 victoires de la première place. D'ailleurs, petit bonbon, voilà, petite fun fact, les Clippers ont annoncé une nouvelle DA. Si vous êtes fan de Los Angeles Clippers, s'il y en a qui existent, on vous soutient. On vous écoute, il n'y en a pas beaucoup, parce que ça, soutenir une équipe de losers, c'est pas facile, bien évidemment. En gros, soutien aux Clippers, mais en tant que fan des Lakers, je me dois souvent de mettre une petite cartouche. Petite DA sympathique, je sais que c'était très attendu du côté des fans des Clippers. Je suis pas un grand fan, mais c'est vrai que ça fait du bien et ça donne un peu de nouveauté, ils sont très contents.
Benji, pour terminer, pronostic Lyon Strasbourg rapidement, quart de finale de la Coupe de France.
Lyon Strasbourg qui vient de commencer, 6 minutes de jeu, toujours 0-0, et c'est vrai que depuis le début de saison, on aimerait bien une victoire où on souffle un peu du côté de l'Olympique Lyonnais, parce que souvent ça se joue à un but près et on a souvent un petit peu, on s'est un peu les fait jusqu'à la fin, je dirais 2-1 pour l'Olympique Lyonnais.
2-1, Ryan.
Alors ça va à l'encontre de ce que j'ai dit toute la soirée, 1-0 pour Strasbourg.
1-0 pour Strasbourg.
Et Mathieu, tu construis
Lyon-Strasbourg, quart de finale, Coupe de France.
Moi, je vais pas me mouiller, je vais dire tir au but.
Bah,
tu te mouilles quand même. 1-0, un prolongue. Moi, je dis qu'ils vont aller jusqu'en prolongue.
Il y a prolongation.
Vous voulez que je fasse un arrêt cardiaque ce soir
On sait pas.
Il y a prolongation en Coupe de France.
Un grand merci à Solal à la réalisation. On vous retrouve. Vanessa qui arrive, 21h-23h. Big up aussi à l'équipe de Tamsport et à un certain Nabil qui nous a rejoint. Bye bye et à demain.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.